Alors, Pierre, dans sa lettre, comme on a vu, cherchait à encourager les croyants qui étaient dispersés en Asie mineure et qui vivaient dans des contextes hostiles du fait de la persécution ou du rejet qu'ils subissaient à cause de leur foi. Nous avons vu ces deux derniers dimanches que la démarche de Pierre consistait à leur rappeler d'abord la valeur inestimable du salut que Dieu leur a offert en Jésus-Christ, et aussi la réponse qui devait être la leur, c'est-à-dire leur obéissance suite à ce salut. Et donc, dans la suite de son exhortation, Pierre, au chapitre 2, va leur parler, va aborder la question de leur identité. Et là, aujourd'hui, ce matin, nous allons voir ce qu'il en dit, et on va lire, toujours dans Pierre, le chapitre 2, les versets 4 à 10. Pierre 2, le verset 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. La parole du Seigneur. Alors nous sommes là devant un texte, un des textes les plus importants du Nouveau Testament. Nous y découvrons l'identité et la vocation de l'Église. Pierre nous montre ici ce que nous sommes dans le projet global de Dieu et ce à quoi nous sommes appelés, notre appel. En tant que chrétiens, on a vu, nous sommes étrangers et voyageurs ici-bas. Mais ça, ce n'est qu'un état. Ce n'est pas notre identité, ce n'est pas ce qui nous définit et nous différencie des autres. Nous avons une identité propre et notre pèlerinage dans ce monde ne peut que bien se passer si nous savons ce que nous sommes réellement et le rôle que Dieu nous appelle à jouer dans ce monde. Pierre donne un résumé de notre identité et de notre vocation dans le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voici donc en quelques mots un résumé de notre identité et de notre vocation. En utilisant la locution vous, au contraire, Pierre veut mettre en lumière, veut mettre en évidence le contraste qui existe entre l'Église et le monde. Ce qui nous définit et nous différencie des autres est le fait que nous sommes un peuple choisi et aimé de Dieu. Nous ne sommes plus des ténèbres, mais nous sommes maintenant passés des ténèbres à la lumière. Nous avons maintenant une nouvelle identité. Nous sommes le peuple de Dieu. Il dit au verset 10, vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes le nouveau peuple de Dieu, un peuple acquis, et notre voyage dans ce monde doit servir à annoncer les vertus, à annoncer les mérites de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons vu précédemment que l'espérance du salut motive les chrétiens à continuer le voyage malgré les obstacles. Et de cette même manière aussi, une meilleure connaissance de notre identité et ce que nous sommes en Christ nous aide, nous garde de passer à côté du rôle, de la vocation que Dieu nous donne, du rôle que Dieu nous appelle à jouer dans ce monde. Et c'est pourquoi dans ce texte, Pierre veut remettre devant nos yeux les éléments qui fondent notre identité en tant que peuple de Dieu, les éléments qui définissent notre vocation. Et il me semble que nous pouvons les rassembler au nombre de trois éléments fondamentaux. Voilà, le premier élément serait notre relation avec Christ, et le deuxième, notre relation avec l'Église de Christ, et le troisième, notre service par Christ. Notre relation avec Christ, notre relation avec l'Église de Christ, et notre service par Christ. Alors, notre relation avec Christ, cette relation est mise en évidence au début de notre lecture, au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Nous sommes rentrés dans la famille de Dieu le jour où on s'est approché de Christ. Et l'on continue à vivre dans cette famille en restant dans une relation constante et permanente avec Christ. Le mot grec, que je ne vais pas citer ici parce que je n'ai pas l'accent, et qui est traduit ici par « approchez-vous », est riche de sens. Premièrement, il comporte la notion de placer sa confiance en quelqu'un. C'est le même mot qui est utilisé par l'auteur des Épîtres aux Hébreux. Il dit, Hébreux 10, 22, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. » Donc, quand Pierre dit « Approchez-vous de lui », c'est-à-dire de Christ, qu'il considère comme une pierre vivante, il nous incite dans une démarche de foi, une foi sincère dans la personne de Jésus-Christ. Et l'autre particularité de ce même mot est le fait qu'il exprime une action répétée. Il ne s'agit donc pas de s'approcher une seule fois pour toutes, mais de s'approcher de Jésus-Christ constamment. Et la preuve est qu'ici, dans cet épître, Pierre, s'adresse à des croyants. Il écrit cette lettre à des gens qui sont déjà en Christ, donc il les incite dans une démarche renouvelée avec Jésus-Christ. Et nous avons ici l'essence même de la foi chrétienne. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'un jour nous avons fait une prière. Il ne s'agit pas d'un acte religieux qu'on ferait une seule fois pour toutes et après c'est tout. La foi chrétienne n'est pas une saisie possession, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est une entière confiance en Jésus-Christ qui doit être renouvelée constamment au travers de la relation que nous entretenons avec lui. Et c'est un élément fondamental de notre identité chrétienne. C'est cette relation sans cesse renouvelée qui atteste de notre attachement à Christ et qui confirme notre appartenance à la famille de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Et telle est la volonté de Dieu, que les hommes ne puissent avoir accès à lui qu'au travers de cette relation avec Christ. Et c'est ce que Pierre met en évidence en qualifiant Christ de pierre vivante. Il tire cette image de l'Ancien Testament. Au verset 6, il cite cette prophétie dans Ésaïe 28 qui s'applique au Messie, le Christ. « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » La pierre angulaire que Dieu a placée en Sion et qui devait être source de salut et d'appui est une préfiguration de Christ. Elle symbolisait le salut et la sécurité pour le peuple de l'Ancienne Alliance. Et Christ joue ce même rôle pour nous aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance. C'est auprès de lui que nous trouvons salut et appui. La prophétie d'Ésaïe parle d'une pierre angulaire. Et ici, on voit que l'apôtre Pierre en fait une adaptation et il parle de Jésus-Christ comme d'une pierre vivante. Pour le géologue que je suis, je peux comprendre que l'on parle d'une pierre, qu'on parle de la vie à propos d'une pierre. Mais en général, la vie n'est pas la première qualité qui nous vient à l'esprit quand on parle d'un caillou, quand on pense à un caillou. Une pierre, c'est plutôt inerte, c'est immobile, c'est le contraire même de la vie. Quand on pense à une pierre, on voit plutôt la mort que la vie. Mais en lisant les évangiles, on comprend pourquoi Pierre qualifie Christ de pierre vivante. En appelant Christ pierre vivante, il fait allusion à sa mort et à sa résurrection. En portant nos fautes à la croix, Christ a subi la mort à notre place. Mais nous savons qu'il n'est pas resté prisonnier du tombeau. Il est ressuscité de la mort. Il a vaincu la mort. Et par cette résurrection, Christ est devenu la pierre vivante, notre pierre vivante. Et il dit, normalement la Bible nous dit, nous au contraire, la Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Nous méritons la mort. Nous sommes une pierre, nous sommes morts. Mais par la relation que nous entretenons avec Christ, il nous communique la vie qui est en lui. Lui qui a vaincu la mort, lui qui est plein de vie, il peut nous communiquer sa vie. Christ est notre pierre vivante. Il est la source de la vie. Et quand on s'approche de lui, dans cette relation, il nous communique sa vie. Et c'est ce que Paul exprime aussi en disant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En tant que chrétien, c'est la vie de Christ qui vit, qui est en nous. Nous avons aussi évoqué tout à l'heure que la pierre, c'est immobile, c'est inerte. Mais ces caractéristiques deviennent une qualité pour quelqu'un qui veut prendre cette pierre pour appui. Et c'est ce que Christ est pour nous. Il est notre appui. Pour nous chrétiens, Christ est la source de la vie, mais il est notre appui aussi. Et dans les moments difficiles, quand on a besoin d'une épaule pour pleurer, c'est vers lui qu'on doit se tourner prioritairement. Parce que c'est lui que Dieu nous a donné comme appui, comme source de vie. La Bible parle de lui comme le rocher du salut. En Christ, nous avons la vie et la ressource nécessaire pour vivre ici-bas. Tout nous vient de lui. Et en tant que chrétien, avoir cette relation avec Christ, l'entretenir, c'est primordial. Notre légitimité en tant que peuple de Dieu vient de là. Et Pierre va dire que c'est même un honneur pour nous. C'est un privilège que de bénéficier de cette relation avec Christ. C'est un honneur parce qu'appartenir à Christ, avoir cette relation avec lui, signifie que nous faisons partie du projet global de Dieu. De toute éternité, Dieu a voulu réconcilier les hommes avec lui par Christ. Et Dieu a rendu publiquement ses témoignages en ce sens. Il a dit, vous vous souvenez, dans Matthieu, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est le fils unique, le vrai serviteur de son Père, le seul qui puisse accomplir parfaitement le salut de Dieu. » Mais les hommes l'ont rejeté, il le dit dans ce texte, en le crucifiant, les hommes ont cru pouvoir se débarrasser de lui. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et notre honneur, notre privilège en tant que peuple de Dieu vient du fait qu'en tant qu'unis en Christ, Dieu nous met à son crédit. Nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis grâce à cette relation que nous avons avec Christ. C'est donc le premier fondement de notre identité en tant que peuple de Dieu. Le deuxième élément qui fonde notre identité, c'est la relation que nous avons avec l'Église de Christ. En fait, en Christ, Dieu ne nous sauve pas pour nous lâcher dans la nature. Il nous sauve pour nous intégrer dans un grand projet, dans un projet qui dépasse nos perspectives humaines. Et au verset 5, il dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Cela signifie que chaque chrétien est une pierre vivante qui participe à la construction d'une maison spirituelle. Et nous avons ici l'image du temple, qui est hautement symbolique dans l'ancienne alliance et qui rend compte de la relation entre Dieu et son peuple. Et Pierre n'est pas le seul à nous comparer, chrétiens, comme temple de Dieu. Paul a utilisé cette même image dans Éphésiens 2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ces deux versets nous apprennent quelque chose d'une importance capitale. Avant même la fondation du monde, Dieu a voulu se construire un peuple. Dieu a voulu construire un temple fait de pierres vivantes. Jésus-Christ est la pierre angulaire, il en est le fondement, et une fois que quelqu'un vient à lui, Dieu l'associe à cet édifice. On a souvent une conception erronée de la grande œuvre du salut de Dieu. on croit à tort qu'une fois que quelqu'un est en Christ, l'œuvre du salut de Dieu est atteinte. Le but de Dieu est atteint. Et c'est complètement faux. Dieu ne nous dit pas, maintenant que tu es sauvé, rendez-vous au ciel. Non. Il nous dit, maintenant que tu es en Christ, tu peux intégrer le processus. C'est maintenant que les choses commencent. Quand nous sommes en Christ, c'est une bonne chose. C'est ce que Dieu veut, c'est Dieu qui nous sauve. Mais il nous sauve pour intégrer un processus. Vous et moi, nous sommes les matériaux que Dieu utilise pour bâtir son temple vivant. Jésus-Christ en est le fondement et chaque croyant est une brique qui doit être associée avec d'autres briques pour construire le mur du bâtiment. Et on retrouve cette image des pierres vivantes imbriquées les unes dans les autres. Ça nous renvoie une notion d'association, une notion corporative. On est ensemble. C'est ensemble que nous formons le temple. Dieu se sert de l'interaction que nous avons les uns avec les autres pour construire sa maison. Et ceux qui ont déjà construit une maison, ils comprennent bien cette image. Une brique seule n'est pas un mur. C'est l'ensemble des briques qui forment un mur. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. D'abord, il donne la vie. Ensuite, comme des pierres vivantes, il nous associe à l'édifice. Et ensemble, les uns avec les autres, Dieu nous édifie pour bâtir sa maison. Et le temple que Dieu construit, nous sommes non seulement les matériaux, mais nous sommes aussi les sacrificateurs qui vont officier dans ce temple. Et ce temple, c'est l'Église. L'Église, c'est le grand projet de Dieu. L'Église, c'est ce peuple acquis dont Pierre parle au verset 9 et qui est appelé à annoncer les vertus et celui qui l'a appelé les ténèbres à la lumière. C'est au sein de l'Église que le chrétien va s'édifier et ensemble avec les autres pour former le temple vivant dans lequel Dieu habite. C'est au sein de l'Église et avec les autres que nous constituons le sacerdoce royal dont le rôle est d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et Paul dit à propos de l'Église dans Éphésiens 3 que c'est elle qui démontre devant le monde la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand Dieu sauve une vie, c'est pour l'ajouter à l'Église. Et c'est pour cela que Christ lui-même demande à ses disciples d'être unis parce qu'ils sont impliqués dans un même et grand projet. C'est aussi dans ce même esprit que Pierre et les autres apôtres vont exhorter les croyants à avoir un amour sincère les uns pour les autres, à se supporter les uns les autres, à prendre soin les uns des autres, à prier les uns pour les autres et à rechercher ensemble la sainteté qui doit refléter, parce que nous sommes temple de Dieu, et en tant que temple, nous devons ensemble refléter sa sainteté. La communion avec les autres chrétiens et notre implication dans l'Église n'est pas une option à prendre ou à laisser. Et pour utiliser le langage de nos jours, le don du salut de Dieu, c'est une offre groupée. On ne peut pas choisir les éléments qui sont dedans. Dieu nous sauve et nous intègre dans son projet. Et Pierre commence cette épître en disant que Dieu nous a sauvés afin que l'on devienne obéissant. Dieu nous a sauvés pour qu'on devienne obéissant. Donc celui qui est sauvé et qui refuse de se joindre à l'Église est en parfaite désobéissance. Parce qu'il refuse là de s'inscrire dans le grand projet de Dieu. Notre participation à la vie de l'Église, qui est le vrai temple de Dieu, est un privilège et un devoir qui est associé à notre salut en Christ. Dans l'Ancienne Alliance, l'accès au temple était strictement interdit à toute personne étrangère du peuple d'Israël. Mais au travers de Christ, nous sommes incorporés dans le peuple de Dieu. Et à ce titre, nous pouvons et nous devons participer à la vie du temple, à la vie de l'Église. Et c'est pourquoi Pierre rappelle, au verset 10, cette promesse qui a été faite dans Osée. Vous qui n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, et qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dieu a fait de nous son peuple pour pouvoir rentrer dans son grand projet. Dieu nous a fait grâce pour qu'ensemble, avec les autres croyants, nous participions à l'accomplissement de son grand dessein. Dans l'Ancien Testament, mis à part les sacrificateurs qui officiaient dans le temple, la grande majorité du peuple était spectateur. Mais en Christ, non seulement nous sommes les matériaux qui constituent le temple, Nous avons aussi le droit de participer au sacerdoce en offrant des sacrifices spirituels. Et c'est au travers de l'Église que Dieu veut mettre ça en œuvre. J'aimerais souligner aussi, enfin, que Dieu se sert de nous, Dieu se sert de frères et sœurs dans l'Église pour nous édifier, pour nous faire grandir et pour nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Ça me fait penser à quelque chose que Jonathan m'avait dit un jour. On discutait et il m'a dit, « Ben fort, tu sais que tu participes à ma sanctification. » Et j'étais très flatté. Je dis, wow, je joue mon rôle de... Il m'a dit, oui, en te supportant, je progresse dans ma sainteté. Là, j'étais moins flatté. Mais je me rends compte que voilà, Dieu nous utilise les uns avec les autres pour bâtir son Église, pour que nous puissions être à sa ressemblance. L'Église occupe une place importante dans le dessein de Dieu. Et notre relation avec elle est un élément qui forme notre identité en tant que peuple de Dieu. Et le dernier élément que nous allons voir, c'est notre service au travers de Christ. La notion de service est contenue dans les versets 5. Dans les versets 5 et 9, verset 5, il dit « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Au verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. » Et ces deux versets vont ensemble, ils expriment la même chose. Ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire. Dans le premier, nous sommes à la fois temple et sacrificateur. Nous formons le temple et nous servons dans le temple. Et le deuxième verset, nous sommes peuple et témoin. Donc si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au verset, au point 2, ou plutôt si j'ai bien expliqué le point 2, vous devez être à même de faire le lien entre le temple, le peuple et l'Église. Donc si on voulait résumer ces deux versets, ça donnera quelque chose comme « Vous êtes l'Église afin de servir. » Ou encore, pour répondre à une expression connue, « Vous êtes sauvés pour servir. » Et en réalité, je ne suis pas en train de vous livrer un scoop quand je dis que l'Église existe pour servir. On le sait à peu près tous, et tous à peu près en train de servir. Si la majorité des gens ce matin est arrivée à 10h, 10h30, il y en a qui sont arrivés très tôt pour pouvoir servir. Et si vous me permettez le pléonasme, ceux qui nous ont servi le café ce matin étaient en train de servir. Ceux qui ont ramassé les offrandes, les musiciens, Nathan qui a présidé, moi qui suis en train de vous donner le message, je sers. On est tous en train de servir. La question n'est pas là. La vraie question est de savoir si Dieu prend plaisir à tout ce qu'on fait comme service. Servir, oui, mais est-ce que Dieu prend plaisir à tout ce qu'on fait comme service? Si la réponse à cette question est oui, alors tout va bien. Continuons à servir. Mais s'il y a une possibilité que la réponse soit non, il y a lieu de s'arrêter et de se poser une autre question. Que cela veut dire servir selon Dieu? Ou à quel service Dieu prend-il plaisir? Et la réponse à cette question se trouve au verset 5. Afin d'offrir des victimes spirituelles par Jésus-Christ. Le service selon Dieu, c'est l'offrande des victimes spirituelles par Jésus-Christ. Si j'étais à l'école du dimanche, j'imagine qu'une main se serait levée pour me demander « C'est quoi victime spirituelle ?» Mais ici, on est des adultes, on connaît tous ce que c'est que victime spirituelle. Mais en tout cas, il vaudrait mieux qu'on le sache. C'est ça le service selon Dieu, offrir des victimes spirituelles par Jésus-Christ. Si on regarde bien dans ces versets, il y a deux choses qui normalement vont ensemble et qui doivent caractériser le service que nous rendons à Dieu. Les victimes spirituelles et l'intervention de Jésus-Christ. L'expression « victime spirituelle » revoit la notion de sacrifice dans l'Ancien Testament, et plus précisément de l'Holocauste. C'était un sacrifice au cours duquel un animal, généralement un agneau, sans défaut, était tué. On recueillait son sang, qu'on répandait tout autour de l'autel, ou qu'on versait aussi sur l'autel. Ensuite, on brûlait entièrement le corps de l'animal pour exprimer la consécration totale de la victime à Dieu. Et nous savons que la figure de l'agneau sans défaut était une préfiguration de Christ, qui par obéissance va s'offrir entièrement à Dieu jusqu'à mourir sur la croix pour notre salut. Et vous et moi, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous sommes appelés à nous offrir entièrement à Dieu par identification à Christ. Donc si on reprend l'expression de Pierre, servir Dieu, c'est lui offrir des victimes spirituelles par Jésus-Christ. Et offrir des victimes spirituelles signifie l'offrande de nos vies et de nos corps à Dieu au nom de Christ, ou plutôt à l'exemple de Christ. C'est ce que Pierre nous dit ici, et c'est aussi ce que Paul nous dit dans Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Voilà la réponse à la question de savoir quel service est agréable à Dieu. Quelle offrande est agréable à Dieu? Les œuvres que j'ai citées tout à l'heure, offrir le café, chanter, présider, prêcher, ne sont pas le service. Ce ne sont que l'expression visible du vrai service qui est celui d'offrir nos vies et nos corps à Dieu. Ces choses ne sont que les conséquences d'une consécration intérieure, d'une consécration antérieure. Si nos corps et nos vies ne sont pas d'abord offerts à Dieu, si nous ne sommes pas entièrement consacrés à Christ, alors tout ce que nous pouvons faire comme œuvre ne sert absolument à rien. Parce que Dieu n'y prend aucun plaisir. Faire de bonnes choses, faire de bonnes œuvres est une bonne chose. Car cela fait partie du plan de Dieu. Dans Éphésiens 2, 10, il est dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir, pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Pierre dit au verset 9 qu'en qualité de peuple de Dieu, nous sommes des témoins qui doivent annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à la lumière. Donc, les œuvres que nous pouvons accomplir contribuent à ce témoignage de témoins, à rendre témoignage. Et pour que ce soit le cas, il faut que les œuvres proviennent d'une vie qui est déjà consacrée à Christ. Si ma vie n'est pas d'abord offerte comme un sacrifice vivant à Dieu, alors mes œuvres sont inutiles. Ou tout au plus, elles ne servent que mon orgueil, elles ne servent que ma personne, elles ne servent pas Dieu. Je peux être là aujourd'hui devant vous, je prêche, mais si dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas obéissant à Christ, je ne consacre pas ma vie à Christ, ce que je suis en train de faire est vain, c'est inutile. Dieu n'y prend aucun plaisir. Le peuple de Dieu est appelé à le servir à l'exemple de Christ. L'obéissance à Christ et la recherche de la gloire de Dieu doit être la motivation de nos œuvres. C'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 31, que quoi que nous fassions, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de service qui soit agréable à Dieu s'il n'est motivé par l'obéissance à Christ, par l'imitation de Christ, le seul vrai serviteur, choisi, précieux aux yeux de Dieu. Nous venons là de voir les trois éléments fondamentaux qui doivent caractériser le peuple de Dieu et qui font notre identité en tant que peuple devant Dieu et dans ce monde. Notre relation avec Christ, notre relation avec l'Église de Christ, le service que nous offrons à Dieu par Christ. En réalité, au lieu de traiter ces trois éléments séparément, on aurait pu les rassembler en un seul point ou en un seul mot. Christ. Il est le fondement de notre identité. Il est l'alpha et l'oméga dans le grand projet de Dieu. C'est par lui que nous rentrons dans la famille de Dieu, en nous approchant de lui. C'est sur lui que Dieu édifie son peuple, son Église. Et c'est par lui que Dieu agrée notre service. Ma prière est que Dieu nous aide à garder Christ au centre de nos vies, afin de pouvoir être ce peuple dont la vocation est d'annoncer les vertus de celui qu'il a appelé les ténèbres à la lumière. Christ est notre tout. C'est Christ qui fait de nous le peuple de Dieu, et c'est par Christ que nous devons accomplir le rôle que Dieu nous a donné à jouer dans ce monde. Que Dieu nous aide à garder cela en tête et à ne pas nous perdre, à ne pas servir pour servir, à jouer le rôle que Dieu nous donne à jouer dans ce monde.